Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par le pasteur Jean-Christophe Muller avec la participation de Claire Bastide. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
En ce jour de la Nativité, entrons dans la joie de ce culte, amis qui êtes au loin, au près, et qui nous écoutez sur les ondes. La voix de tes sentinelles retentit, le Seigneur console son peuple. Voici, la jeune fille a donné naissance à un fils, et on lui donne le nom d'Emmanuel. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous, car il vient. Une voix crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Que ce qui est tortueux soit redressé, les ravins comblés, les cimes abaissées. Alors, la gloire du Seigneur apparaîtra. À toute créature, elle se dévoilera. Mes bien-aimés, recevons la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Messie qui vient et de l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Redressez-vous. Resplendissez de joie, car elle vient la lumière, et la gloire du Seigneur se lève sur la terre. Vous tous qui avez soif, venez aux sources d'eau. Venez, buvez et mangez gratuitement. Entrez dans la joie de tous ceux qui, à travers les siècles, ont reconnu en Jésus le Christ. La lumière et la splendeur du Seigneur. Amen. Et nous écoutons le chant « Au peuple fidèle ».
Notre Père, fais qu'en ce jour notre cœur chante vraiment Noël. Que nous répondions à ce don merveilleux dans un élan de reconnaissance et de foi. Toi qui as choisi, pour te révéler à nous, l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix, ouvre, par ton esprit, nos cœurs au mystère de ta venue. Seigneur Jésus, rends-nous humbles de ton humilité, obéissants de ton obéissance, aimants de ton amour, afin que nous entrions dans ta joie.
Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver. Accueillons ce message et cette venue dans la paix et marchons en nouveauté de vie. Amen. Et nous écoutons le merveilleux chant « Émerveillons-nous ensemble ».
Thank you.
nous confessons notre foi. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
Nous nous unissons dans la prière.
Dieu, que personne n'a jamais vu, Dieu, que Jésus nous a dévoilé en habitant parmi nous, plein de grâce et de vérité, ouvre nos yeux et nos cœurs, afin qu'en recevant ta parole, nos ténèbres se dissipent et nos vies deviennent lumière. Amen.
Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de cheminer dans le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, que je commenterai à deux reprises.
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, avec Tamar, engendra Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, avec Rahab, engendra Boz. Boz, avec Ruth, engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David. Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asaph. Asaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. Amos engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihoud. Abihoud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ.
Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ.
Mes bien-aimés, cette généalogie de Jésus, on passe souvent à côté parce que c'est un peu une longue litanie et on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'elle peut apporter au message. C'est ce que je vais tenter ce matin d'essayer de trouver. Elle est un petit peu différente, mais de pas beaucoup, de la généalogie de Jésus, qui part d'Adam, non plus d'Abraham, mais d'Adam, que Luc nous donne au chapitre 3 de l'évangile de Luc. Mais ne perdez pas de temps à aller regarder. On a toujours un problème avec les généalogies. Déjà, le livre des rois et le livre des chroniques nous en livrent, et quand on s'amuse à les éplucher, elles ne sont pas semblables. Il y a même parfois des complications pour comprendre les successions historiques. S'il est important que Matthieu commence par une généalogie de Jésus, c'est pour l'inscrire dans l'histoire des alliances, dans l'histoire des promesses, pour l'inscrire dans l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et pour l'inscrire aussi dans l'histoire des rois, David, Salomon, Roboam, un peu plus loin, Achaz, Ézéchias, Manassé, les bons rois ou les mauvais rois de Jérusalem, si vous lisez les livres des rois et des chroniques. Et puis, il y a les noms qui nous sont donnés après l'exil à Babylone. Alors, dans les livres de l'Ancien Testament, on a bien la mention de Salathiel et Zorobabel, une fois Eliakim, mais alors, tous les autres n'apparaissent et n'ont mémoire dans l'histoire que dans cette généalogie de Matthieu. Nous ne pouvons donc rien en dire. Autant la liste qui va de David à Josias pour la période des rois est à peu près claire, autant la première partie qui part des patriarches jusqu'à David, et puis la partie qui va de l'exil à Babylone jusqu'à Jésus, est plus sombre. C'est qu'au fond, cette généalogie ancre Jésus dans l'histoire de l'alliance avec Abraham. Elle est importante pour moi, cette histoire, parce que c'est la promesse d'une bénédiction, pas simplement pour les descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham seront promesses pour toutes les nations. Et il y en a un enjeu majeur du sens de la venue de ce Messie qui vient, non pas pour le seul peuple juif, peuple de l'Alliance, mais pour toutes les nations comme signe de bénédiction. Ensuite, ce sont des noms d'hommes qui sont dans cette généalogie, sauf à 4 reprises. Judas avec Tamar engendra Phares et Zara. Le patriarche Judas a perdu un de ses fils et sa veuve, normalement, devait pouvoir compter sur ses beaux-frères pour qu'il y ait une descendance. La descendance est importante puisque c'est avec elle que se transmet la promesse de la bénédiction pour la famille, pour les descendants et pour toutes les nations. Si Tamar n'a pas d'enfant, c'est une interruption dans le processus de transmission de la bénédiction. Alors Tamar se transforme en prostituée occasionnelle, couche avec son beau-père, et d'ailleurs elle lui prend quelques objets, Quand il les cherche, il cherche cette prostituée, il ne la trouve plus. Et c'est Tamar qui viendra rendre à son beau-père les objets qu'elle lui a dérobés, lui montrant le stratagème qu'elle a fait. Rahab. Ah, Rahab est connue comme une prostituée cananéenne de Jéricho. C'est elle qui permet aux Hébreux qui assiègent Jéricho de pouvoir rentrer dans la ville avant d'entrer sur la terre promise. Et quoique non-juive, Salmon épouse cette prostituée cananéenne parce que elle a été un partenaire de l'alliance et de la réalisation de la promesse. Boaz est plus connu, il épouse une femme étrangère, Ruth, qui sera même l'objet d'un des livres de l'Ancien Testament. C'est qu'il y a deux interprétations sur le sens de l'alliance. Ceux qui disent qu'il faut rester dans la pureté, ceux qui disent que les gens qui sont mariés avec une étrangère doivent les répudier. Et puis, il y a ce petit livre de Ruth qui nous dit que la grand-mère de David était une étrangère et qu'une fois veuve, elle s'est occupée de sa belle-mère. La belle histoire de Ruth est présente donc au cœur de l'Ancien Testament comme présence des nations et pour le refus que la promesse des différentes alliances que Dieu passe avec son peuple soit pour un cercle fermé, c'est pour toutes les nations. On a ensuite la mention, le roi David avec la femme d'Uri. Nous connaissons tous cette histoire de l'adultère de David, qu'il a masqué, maquillé, et qui en plus a été jusqu'à tuer le mari de celle avec qui il avait commis l'adultère. C'est déjà, puisqu'on sait que c'est à David que Dieu promet que de lui descendra le Messie, c'est déjà la démonstration que le Dieu qui se révèle dans la Bible n'est pas simplement un juge qui veut condamner ou féliciter, c'est un juge qui aime et qui entretient une relation qui fait que c'est avec nos parts d'ombre, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, c'est avec cela qu'il nous aime. Il n'aime pas le côté parfait de notre humanité, ni le côté pur. Ce qu'il aime, c'est ce que nous sommes. Que ce soit inscrit dans la généalogie est important. Dans la troisième partie de la généalogie, il y a donc des inconnus. Des inconnus qui sont très probablement des gens qui sont restés en exil à Babylone. Et on sait aujourd'hui que le roi Hérode a fait venir à grands frais des Juifs en exil à Babylone pour les installer en terre de Galilée. Ce qui explique peut-être la raison pour laquelle Joseph, pour le recensement, ne peut pas repartir à Babylone et donc est obligé d'aller à Bethléem. Et puis, il y a une cinquième personne féminine dans la généalogie de Jésus, c'est Marie. Et on nous dit « Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus ». Donc on ne nous dit pas « Joseph engendra ». Ça pose la question de savoir si on croit à la naissance virginale ou si on croit que Joseph a accepté l'enfant d'un autre. Je n'exclus aucune des deux hypothèses parce que je crois que Dieu peut tout faire. Mais je crois aussi que la possibilité que Marie soit une jeune femme se retrouva enceinte et donc promise à une vie exclue et condamnée, elle aussi a sa place dans la généalogie que Matthieu nous dresse, telle qu'il nous l'adresse.
Thank you.
Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus.
Voilà une belle histoire. Il est important de relire Matthieu parce que Luc ne met en scène au fond quasiment que Marie. Et il a raison. Mais il faut faire place à Joseph comme celui qui accepte d'accompagner cette aventure, comme celui qui accepte d'y entrer. Le père adoptif, le père putatif, comme on voudra. Mais au fond, la foi, c'est ce qui se transmet par une parole à laquelle on croit, par un engagement qu'on veut bien prendre. Et c'est ce que fait Joseph. Il inscrit ainsi Jésus dans la généalogie qu'on vient de lire. Il l'inscrit dans cette histoire de la longue attente, de la réalisation d'une promesse. Et il le fait en confiance, avec douceur, tendresse. Au fond, tel que décrit par le récit de Matthieu, Joseph est en résonance avec la tendresse, l'humilité qui nous attire vers l'émerveillement que nous ressentons autour de la crèche. Dieu se manifeste dans notre fragilité, là où l'histoire est déchirée, meurtrie. Nos histoires personnelles, comme l'histoire du peuple de l'Alliance, comme l'histoire du monde, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors que nous fêtons la nativité, tant de gens sont sur notre terre dans la détresse et sous le poids de la mort. Je voudrais cependant conclure, car nous nous fixons beaucoup sur Noël, et il y a exactement 475 ans, Jean Calvin à Genève a tiré notre attention de la sorte. Si vous pensez que Jésus-Christ soit né aujourd'hui, vous êtes des bêtes, voire des bêtes enragées. Un jour n'est point meilleur que l'autre. Ce sera tout un quand nous ferons mémoire de la nativité de notre Seigneur, un mercredi, un jeudi ou n'importe quel autre jour. Ce que Calvin insiste, c'est qu'au fond, la fête de Noël n'est pas pour lui très importante et que le 25 décembre n'a pas de sens. Que c'est Noël tous les jours, puisqu'à partir du moment où je dis que je crois que Jésus, le Messie, est le Dieu qui est venu parmi les hommes, alors chaque jour où je pose un acte de foi, je pose l'émerveillement devant la fragilité d'un petit enfant qui est la forme, l'engagement que Dieu prend pour venir vivre son amour parmi les humains. Là, dans la fragilité, le dénuement d'une crèche, bien loin de tous les palais où nous nous sommes empressés d'aller le remettre, Même si beaucoup d'églises, de cathédrales ou de temples sont superbes, ils ne sont en rien semblables à la crèche où il vaut la peine que nous allions nous émerveiller. Voilà les quelques paroles et miettes d'évangile que je vous propose de recevoir et de partager en ce beau jour de la Nativité. Et nous écoutons le chant « Le Fils de Dieu, le Roi de gloire ». Nous nous unissons dans la prière.
Ô Seigneur, qu'elle chante en nos ciels ta gloire au plus haut des cieux, et que sur notre terre descende ta paix. Nous attendons la venue du temps où les humains cesseront de se battre, et ce jour viendra. Comme un rameau sur un tronc, en apparence desséché, fragile, mais plus beau encore que tous nos rêves meurtris, il fleurira. Ce jour-là, les grands qui écrasent les petits sauront que les puissants n'ont pas toujours raison. Nous verrons à nos yeux ébahis la paix naître de la justice. La terre deviendra vivable, les peurs et les mépris auront disparu. Le loup et l'agneau, le tigre et le chevreau, le lion et le veau, l'ours et la vache se rencontreront sans se craindre ni se dévorer. La vipère ne sera plus menace pour le petit enfant. Ce jour-là, quand le rameau fleurira, on n'apprendra plus à faire la guerre. On ne spoliera plus les doux. Ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui espèrent sauront qu'ils ont été entendus. Ce jour-là, comme la belle nuit étoilée de Noël, effacera tous les nuages qui encombrent nos pensées.
Unis au Christ et en communion avec ceux qui, au long des âges, ont salué dans l'enfant de la crèche le Messie de Dieu, ensemble nous pouvons te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Amis auditeurs, nous arrivons à la fin de ce temps de culte radiophonique. Nous allons poursuivre nos chemins maintenant. Recevons d'abord envoi, puis bénédiction de la part de Dieu.
La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. Dieu est avec nous. Redis-nous, ô Père, que nous n'avons pas rêvé en ce jour de Noël, que tu nous fais cadeau d'une vie nouvelle, pour ce jour et pour toujours. Amen.
Mes bien-aimés, allez dans la paix. Vous êtes enfants de la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix à vous sur cette terre et au monde que Dieu aime. Amen. Avant de vous souhaiter un joyeux Noël, que vous soyez seul ou avec des gens que vous aimez, nous écoutons le chant « Parler au cœur du monde ».
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Rousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Jean-Christophe Muller avec la participation de Claire Bastide. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme.